à toutes et à toutes, vous êtes sur JD News, l'émission préparée avec amour par les 4e du collège Jean Dieuzède.
Merci d'être toujours là. Nous prenons le relais après nos camarades Sarah, Tom et Marie-Elisa pour vous présenter la suite de cette émission.
Exactement Lily. Dans la première partie de cette émission, nous avons parlé de ce qui a tendance à nous fasciner quand on parle de journalisme.
On peut tous avouer qu'on fantasme un peu sur l'idée d'un métier à risque, celui de reporter de guerre, sur le côté aventurier. On a tous l'image de Tintin.
Même s'il est moins connu du grand public, Albert Londres incarne lui aussi ce côté aventurier. Il est mort il y a presque un siècle, comme vous l'avez entendu. Pourtant, on parle encore de lui. Tom, Ezio et Noah, expliquez-nous pourquoi.
Le prix Albert Londres, c'est quoi ? Le prix Albert Londres, c'est quoi ? Une coupe internationale de sport, un prix Nobel ou un prix qui récompense le meilleur jardinier ?
Perdu, c'est un prix qui récompense le meilleur grand reporter.
Le ou la meilleur reporter ?
Pour récompenser le ou la journaliste qui a fait plus de reportages ?
Non, pas du tout. Le prix Albert Londres récompense tous les ans à la date d'anniversaire de sa mort...
Le 16 mai.
Ah oui, merci Noah. C'est un prix qui récompense tous les ans, le 16 mai, le ou la meilleure journaliste francophone.
Mais que doit-on faire pour l'obtenir ?
Tu dois avoir réalisé un reportage, une enquête ou un documentaire traitant d'un sujet sensible.
Ensuite, un jury jugera tes compétences en journalisme. Et pour finir, celui qui sera jugé le meilleur se verra décerner ce prix.
Le ou la meilleur.
Ce prix existe depuis très longtemps, je crois. Qui l'a créé ?
Le prix Albert Londres a été créé en 1933 par trois journalistes de terrain, compagnons d'Albert Londres, et par Floris Martinet Londres, qui est sa fille.
Pour quelle raison ?
Ils l'ont créé pour lui rendre hommage, car Albert Londres est considéré comme l'un des pères du reportage grâce à ses reportages sur le ban de Cayenne.
Qui a remporté le prix 2024 ?
C'est Lorraine de Fouchier, journaliste au journal Le Monde depuis 2014, qui a obtenu le 86e prix Albert Londres à seulement 38 ans.
Qu'est-ce qu'elle a fait ?
Elle a enquêté sur les viols de Mazan.
Ce prix est un formidable moyen pour un journaliste d'acquérir de la notoriété. C'est un tremplin pour sa carrière professionnelle.
Merci à tous les trois. Certains journalistes n'ont pas besoin de recevoir le prix Albert Londres pour être reconnus et avoir une belle carrière.
En effet, le journalisme et son économie ont beaucoup changé depuis Albert Londres. Aujourd'hui, avec le développement d'Internet et du multimédia, il y a plein de sortes de journalistes.
Tout à fait d'accord, Rowan. Hugo Décrypte est un bon exemple de journaliste célèbre des temps modernes.
C'est vrai que dans notre génération, tout le monde le connaît, et même les plus âgés ont entendu parler.
Moïna, Robin et Swan ont cherché à comprendre son succès.
Vous avez tous entendu parler de Hugo Décrypte, mais quelle est la recette de sa popularité ?
Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un journaliste franco-britannique âgé de tout juste 28 ans. Il intervient sur YouTube, TikTok et Instagram.
Ses débuts sur YouTube en 2015 ne sont pas très glorieux, mais c'est en 2020, lors de la période du confinement due au Covid, qu'il va se faire un nom. C'est sûr que ce moment était opportun tout simplement parce que les gens étaient très connectés aux réseaux sociaux et aux médias pendant cette période-là.
Savez-vous pourquoi il a réussi à attirer autant de jeunes sur ses chaînes ?
Il arrive simplement à s'adapter aux nouvelles générations en utilisant des formats plus courts. Il utilise des mots simples qui permettent à sa communauté de mieux comprendre certains sujets de géopolitique complexes, comme la guerre entre Israël et la Palestine. Ce qui donne aussi envie de le regarder est qu'il interviewe certaines célébrités publiques, comme le président de la République, Lewis Hamilton, Bill Eilish ou encore Zendaya.
Sa cote de popularité a également augmenté en faisant des apparitions sur les chaînes des youtubeurs francophones. Des chaînes à plusieurs millions d'abonnés comme Squeezie, Lena Situation ou encore McFly et Calito.
Travaille-t-il seul ?
Non, Hugo Décrypte travaille en équipe. Il s'appuie aussi sur des sources fiables, de grands journaux de la presse écrite comme Le Monde.
Il a également créé plusieurs entreprises telles que Hugo Décrypte. Celle-ci employait une vingtaine de personnes en 2023, pour la plupart de jeunes journalistes.
Un beau parcours déjà pour un jeune homme d'à peine 28 ans.
Beau parcours en effet.
Si nous avons choisi de vous parler du journalisme, c'est parce que c'est un métier riche et complexe. Et nous voulions vous montrer les différentes facettes du métier.
En effet, il y a souvent un décalage entre l'image que la jeunesse en a et la réalité que vivent la grande majorité des professionnels. N'est-ce pas Marie-Lisa, Lou et Amy ?
Tout à fait. L'argent, la passion, la célébrité. Voici les raisons qui attirent nos jeunes adolescents vers le métier de journaliste.
Pour certains, la passion pour le journaliste a commencé très tôt, en regardant le journal de 20h sur les télévisions familiales, par exemple.
Mais quel est le rapport avec l'argent ?
Je pense que nous avons tous eu cette période où nous voulions devenir riches, et pour certains, le métier de journaliste peut paraître une voie facile pour y arriver. Mais détrompez-vous, ce n'est pas si facile que ça.
Oui, en effet. On pense surtout aux journalistes vedettes que l'on voit à la télévision. Mais il existe plusieurs métiers dans le journalisme comme journaliste rédacteur, journaliste éditeur, journaliste reporter d'images pour la télévision, etc.
Et c'est pour cela que nous accueillons aujourd'hui la journaliste Armelle Parillon pour une interview. Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Oui, alors je suis Armelle Parillon, j'ai 42 ans et je suis journaliste en presse écrite depuis 17 ans aujourd'hui. Je travaille principalement pour un média d'investigation qui s'appelle Médiacité. J'ai passé un bac général, plutôt littéraire. J'ai fait l'université de lettres modernes, fait un master de journalisme à l'université de Strasbourg.
Quelle est votre spécialité journalistique ?
J'ai pas vraiment de spécialité parce qu'en fait, dans les écoles de journalisme, on nous forme surtout à être généraliste, c'est-à-dire à savoir traiter à peu près tous les sujets d'actualité de manière efficace et rapide pour aller sur le terrain. Après, dans mes goûts, évidemment, j'ai des sujets qui me plaisent plus que d'autres. Donc, j'aime beaucoup les sujets de société au sens très large, que ce soit l'éducation, la santé, les violences aux femmes, l'éducation. Et de par mon parcours aussi, j'ai un assez gros réseau et pas mal de connaissances dans le domaine culturel. Donc en fait, c'est un des domaines dans lequel on peut dire que je suis spécialisée. Et je suis spécialisée plutôt en presse écrite et en investigation, du coup, puisque je fais surtout des enquêtes au long cours.
Pourquoi avoir choisi la voie journalistique ?
Petit à petit, en fait, je me suis rendu compte après mon parcours que ce que j'aimais, c'était écrire, rencontrer des gens, surtout ne pas avoir de monotonie dans mon travail, c'est-à-dire que ça change un peu tous les jours. Et donc, j'ai trouvé que le journalisme réunissait tous ces atouts-là pour moi. Et je ne regrette pas parce que c'est un métier qui me va bien.
Avez-vous rencontré des difficultés durant votre carrière ?
Alors, sur le terrain, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui, sur le terrain.
Oui, bien sûr. Bah, surtout quand on est dans l'actualité, ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années, il faut toujours être très rapide et réactif. Et donc, forcément, il y a des bugs de temps en temps. Par exemple, une fois, un pont s'est écroulé à Mirepoix-sur-Tarn. Et donc, ça tournait en boucle aux infos. Et je travaillais pour le journal Le Parisien en tant que correspondante dans la région. Et donc, on nous a appelés pour aller là-bas et faire un reportage. Et en fait, comme il fallait partir vite, je sais pas, peut-être avec le stress, avec mon collègue photographe, on est parti à Mirepoix en Ariège, donc une autre ville qui s'appelle Mirepoix à l'opposé. Et quand on est arrivé sur place, en fait, on a demandé aux habitants où était le pont, et on a réalisé en le disant qu'il y avait pas de pont dans cette ville. Et bref, et la dame nous a dit mais non, mais c'est l'autre Mirepoix où il y a un pont qui s'est écroulé. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait 2 heures de route pour repartir dans l'autre sens. Donc quand on arrivait sur le terrain, tous les journalistes étaient déjà là depuis longtemps, des autres médias, ils avaient déjà fait leur boulot. Comme on avait un peu d'expérience, on a réussi à rebondir et à faire quand même bien notre travail. Mais voilà, c'est le genre de choses qui arrivent. Après, il y a des choses encore moins drôles. Hein. Parfois, c'est délicat d'interviewer des gens dans la souffrance, par exemple, et vous avez des consignes de votre rédaction qui veut que vous alliez voir quelqu'un qui vient de perdre sa femme dans un accident horrible. Et bon, voilà, il faut mettre aussi des limites humaines avec ce qu'on est, je pense.
Quel est le journaliste qui vous a le plus inspiré ?
Il y en a une que j'aime particulièrement, c'est Florence Aubenas. C'est une journaliste du Monde qui a maintenant plus de 50 ans. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a fait beaucoup de reportages en immersion. Par exemple, elle a fait le travail de femme de ménage pendant plusieurs mois pour comprendre les métiers précaires de plein de femmes. Et elle en a écrit un livre. Et voilà, ce que j'aime, c'est qu'elle prend le temps de faire ses sujets et elle écrit très bien. Et donc, du coup, ça donne des reportages très fouillés, très approfondis et ça fait découvrir des choses qui ne sont pas accessibles au grand public. Voilà, et j'ai un autre exemple qui me vient, c'est Arthur Freyer. Il a fait la même école de journalisme que moi l'année d'après. Lui, il avait très envie de parler de ce qui se passait dans les prisons françaises et c'est un milieu où on a très peu accès en tant que journaliste. Donc, ce jeune homme, en fait, il s'est fait recruter comme gardien de prison. Il n'a pas dit qu'il était journaliste, bien sûr. Et pendant 6 mois, il a fait sa formation et ensuite, il a été gardien de prison. Il a raconté, donc le soir, il écrivait dans le noir sur sa couchette quand les autres dormaient, parce qu'ils étaient dans des dortoirs, enfin dans des chambres communes. Il écrivait tout ce qu'il avait observé la journée. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Dans la peau d'un maton ».
Est-ce que être journaliste implique forcément une grande charge mentale ?
Je pense que oui, si on veut bien faire son métier, parce que surtout c'est un métier très rigoureux. Et donc il faut tout le temps avoir en tête plein de choses, on a peur de se tromper, il faut faire attention aux gens qu'on a en face de nous, protéger nos sources. Il faut faire attention à ne pas faire d'erreurs, parce qu'on a aussi un devoir envers le public qu'on informe, d'être juste et d'être précis et de ne pas dire de bêtises.
Merci d'avoir répondu à nos questions et je laisse la parole à nos présentateurs.
Avec plaisir.
Merci à toutes les trois et merci à Armelle Parillon d'avoir accepté d'être l'invitée de JD News, l'émission d'information du collège Jean-Joseph.
En parlant de charge mentale, il n'y a pas que les journalistes qui en ont pour nous informer. Partout en France, des lanceurs d'alerte préviennent des médias ou directement la population des dangers industriels ou liés à l'environnement.
Parfois même, ils révèlent des scandales de corruption, d'espionnage. C'est le cas de Julian Assange. Cet informaticien australien a diffusé des milliers de documents classés confidentiels par les États-Unis.
Il a soulevé de possibles crimes de guerre commis par l'armée américaine. Il a été poursuivi et emprisonné pendant 5 ans.
Lui, il est connu. Mais bien souvent, le but des lanceurs d'alerte n'est-il pas de rester discret ?
Absolument, Manon. Nos reporters Juliette, Lola et Lola se sont renseignés sur le rôle de lanceur d'alerte, qui est loin d'être banal. Pouvez-vous nous expliquer ?
On ne connaît souvent ni leur nom, ni leur visage. Pourtant, ils défendent nos droits. De qui parlons-nous ?
Des lanceurs d'alerte.
Mais un lanceur d'alerte, c'est quoi ?
Un lanceur d'alerte est une personne physique révélant une situation susceptible de constituer un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour la population.
La plupart du temps, les lanceurs d'alerte trouvent ce que cachent de grandes entreprises.
Parce qu'ils y ont travaillé ou bien qu'ils connaissent des personnes qui y travaillent.
Les lanceurs d'alerte travaillent discrètement et avec prudence.
Car ce qu'ils leur dénoncent peuvent leur coûter très cher.
Comme leur emploi, leur réputation et parfois, ils risquent leur vie.
Ils collectent des preuves comme des enregistrements, des emails, des témoignages d'autres collègues, des analyses, des rapports et même des fichiers confidentiels. Ensuite, ils contactent des journalistes pour que l'information soit publiée dans les médias.
Mais attention, avant de publier quoi que ce soit, ces journalistes s'assurent que les faits se sont bien produits et ils prendront précautions nécessaires, notamment en consultant des juristes avant de diffuser l'information.
Rappelons que les juristes s'assurent que les règles de droit sont bien respectées.
Parfois, ce sont des journalistes d'investigation qui travaillent sur le sujet et mènent des enquêtes plus poussées pour révéler des faits graves au public.
Les lanceurs d'alerte utilisent différentes stratégies pour donner des informations sensibles tout en essayant de rester anonymes et protégés, par exemple en transmettant des documents via des plateformes sécurisées. Ils n'utilisent pas d'appareils personnels pour protéger leur identité.
En général, les lanceurs d'alerte ne gagnent pas d'argent. Cependant, il y a des exceptions, notamment aux États-Unis, où ils peuvent recevoir une récompense financière.
Je pense que je préfère les moyens moins risqués pour gagner de l'argent de poche.
N'empêche, heureusement que certains ont du courage pour informer la population sur les dangers qu'elle court pour sa sécurité et sa santé.
Sarah, Lucia et Lily, vous vous êtes intéressées à une lanceuse d'alerte connue. Elle s'appelle Yasmine Motarjemi. Qui est cette femme ?
Vous avez entendu parler du scandale avec Nestlé ?
Tu parles du scandale dénoncé par la lanceuse d'alerte, Yasmine Motarjemi ?
Mais que s'est-il passé avec Nestlé ?
Il y a eu plusieurs scandales, comme celui des eaux minérales ou celui des gâteaux pour bébés.
Ah oui, j'ai entendu parler de leurs gâteaux, provoquant l'étouffement des nouveau-nés.
Et aussi de leur lait infantile, qui a dû être retiré de la vente suite à la découverte d'un excès d'iode qui provoquait une intoxication.
Heureusement, Yasmine Motarjemi s'est battue pour faire exploser la vérité, malgré tous les risques qu'elle courait.
Mais qui est Yasmine Motarjemi ?
C'est une lanceuse d'alerte. Elle est née en 1955 à Shiraz, en Iran. Elle a étudié la chimie et la biologie à Lyon. Elle rejoint Nestlé en 1998 et devient ensuite la directrice monde de la sécurité alimentaire de la multinationale. C'est une spécialiste des toxi-infections alimentaires.
Ah oui, et en 2003, elle est mise au courant de deux cas de bébés qui ont failli s'étouffer avec des biscuits. Il y a eu 40 autres cas de genre qui ont été ignorés par Nestlé. Mais en soi, quel est son rôle dans ces affaires ?
Elle a essayé de porter plainte contre Nestlé, mais a été tenue sous silence. De plus, Nestlé l'a ignorée, rabaissée et mise à l'écart. Elle a porté plainte pour harcèlement moral.
Les incidents sanitaires chez Nestlé ont continué entre son licenciement en 2010 et son procès gagné en 2020.
Et finalement, à quoi a été condamné Nestlé par le tribunal ?
Nestlé a dû verser une indemnité de 2 millions d'euros à Yasmine Motarjemi.
Et surtout, le procès a permis de faire la lumière sur ces scandales. Merci beaucoup à toutes les trois.
On le voit, de nombreux citoyens se battent pour défendre la population et les valeurs démocratiques, et pas seulement des journalistes.
Oui, mais bon, c'est souvent les journalistes qui permettent de donner un écho plus large aux scandales et aux injustices. En préparant cette émission, nous avons changé notre regard sur leur métier.
Nous avons découvert que même si tous les journalistes sont loin d'être des vedettes, beaucoup se battent dans l'ombre pour donner des informations justes et surtout cruciales à la population.
Certains sont des reporters de guerre, d'autres font de l'investigation. Ils enquêtent partout en France sur la corruption, le mauvais usage de l'argent public et les violences sur les enfants.
Sans oublier les lanceurs d'alerte qui les aident en dénonçant eux aussi, plein de scandales.
Bref, vous l'avez compris, l'information comporte plein de facettes et elle doit être libre pour qu'on puisse parler de démocratie.
Merci d'avoir suivi Genie News, l'émission préparée avec amour par les 4e de Jean Dieu Z.
Nous espérons que celle-ci vous a plu et nous remercions nos professeurs, Madame Gossard et Madame Michaud.
Et nous espérons surtout vous retrouver bientôt pour une nouvelle émission. Et nous remercions aussi Armelle Parion pour cette activité.
À bientôt.